Chapitre 45, le caractère de Dieu révélé en Christ. Le Sauveur dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Dieu déclare par le prophète, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Aucun homme ne peut parvenir à cette connaissance de Dieu sans l'assistance divine. L'apôtre écrit que le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. La lumière, c'est-à-dire le Christ, était dans le monde, et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Jésus déclara à ses disciples. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Dans sa dernière prière pour ses disciples, avant d'être enveloppé par les ombres de Gethsémané, le Sauveur leva les yeux au ciel, et dans un sentiment d'immense pitié pour un monde déchu, il s'écria. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Dès le commencement, le plan de Satan a été de pousser les hommes à oublier Dieu afin de pouvoir les asservir. C'est ainsi qu'il a cherché à caricaturer le caractère de Dieu pour amener les hommes à avoir de lui une fausse conception. Le Créateur a été dépeint avec les attributs du prince du mal, il a été montré arbitraire, dur, implacable, afin qu'il soit redouté, fuit et haï par les hommes. Satan espère troubler ceux qu'il a séduits au point qu'ils en arrivent à rejeter complètement Dieu. Puis il se propose d'oblitérer en eux l'image divine et d'y imprimer la sienne propre. De les imprégner de son esprit, et de les rendre captifs de sa volonté. C'est en faussant le caractère de Dieu, en faisant naître le doute dans le cœur d'Ève que Satan la poussa à désobéir. Par le péché, l'esprit de nos premiers parents fut obscurci, leur nature dégradée, leur conception de la divinité façonnée par leur étroitesse et leur orgueil. À mesure que les hommes s'enhardirent dans le péché, la connaissance et l'amour de Dieu s'effacèrent de leur cours. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cours sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Parfois, les visées de Satan sur la famille humaine semblèrent couronnées de succès. Au cours des siècles qui précédaient la première venue du Christ, le monde paraissait être entièrement sous la domination du prince des ténèbres qui exerçait une puissance effroyable comme si, par le péché de nos premiers parents, il s'était acquis les royaumes de ce monde. Même le peuple de l'Alliance que Dieu avait choisi pour conserver sur la terre la connaissance de son nom, s'était détourné de lui et avait perdu la véritable conception de son caractère. Le Christ vint pour révéler Dieu comme un Dieu d'amour, rempli de miséricorde, de tendresse, de compassion. Les épaisses ténèbres dont Satan avait environné le trône de la divinité furent dissipées par le Rédempteur du monde, et le Père fut à nouveau manifesté aux hommes comme étant la lumière de la vie. Quand Philippe vint à Jésus et lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit », le Sauveur lui répondit. « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Le Christ déclare avoir été lui-même envoyé dans le monde comme le représentant du Père. Par la noblesse de son caractère, par sa miséricorde, sa tendre compassion, son amour, sa bonté, il est l'incarnation de la perfection divine, l'image du Dieu invisible. Le plan de la rédemption. L'apôtre déclare, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est seulement quand nous contemplons le grand plan de la rédemption, que nous pouvons apprécier à sa juste valeur le caractère de Dieu. L'œuvre de la création fut une manifestation de son amour, mais seul le don de Dieu en vue de sauver l'humanité coupable et perdue, révéler les profondeurs infinies de la tendresse et de la compassion de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aussi longtemps que la loi est respectée, la justice satisfaite, le pécheur peut obtenir le pardon. Le don le plus précieux accordé par le ciel a été consenti afin que Dieu soit juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Grâce à ce don, les hommes peuvent être relevés de l'état de ruine et de dégradation où le péché les avait conduits, et devenir enfants de Dieu. Vous avez reçu un esprit d'adoption, dit Paul, par lequel nous crions, Abba, Père. Mes frères, avec Jean le bien-aimé, je vous exhorte à contempler l'amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel amour, quel merveilleux amour, que des pécheurs et des étrangers tels que nous puissent être ramenés à Dieu et adoptés dans sa famille. Nous pouvons l'appeler du doux nom de Père. Cette appellation est le signe de notre affection pour lui, et un gage de sa sollicitude et de l'intérêt qu'il nous porte. En contemplant les héritiers de la grâce, le Fils de Dieu n'a pas honte de les appeler frères. Ceux-ci sont unis à Dieu par des liens plus intimes que ne le sont les anges qui n'ont jamais péché. Comparé à l'amour infini de Dieu, tout l'amour paternel que les hommes se sont manifestés de génération en génération, toutes les marques de tendresse qui ont fait vibrer leur âme, ne forment qu'un tout petit ruisseau devant un océan sans limite. La langue ne peut exprimer l'amour divin, ni la plume le décrire. Vous pouvez en faire le sujet de vos méditations tous les jours de votre vie. Vous pouvez sonder avec ardeur les Écritures, vous pouvez faire appel à toutes les facultés que Dieu vous a données sans arriver à comprendre l'amour compatissant de notre Père céleste qui livra son Fils à la mort pour le salut de l'humanité. L'éternité elle-même ne pourra suffire à nous le révéler complètement. Néanmoins, quand nous étudions la Bible, et quand nous méditons sur la vie du Christ et le plan de la rédemption, ces grands films deviennent toujours plus clairs à notre entendement. Il nous appartient donc de faire nôtre cette bénédiction que saint Paul souhaitait pour l'Église d'Éphésée, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Satan s'efforce constamment de remplir les esprits de préoccupations frivoles qui les empêchent d'acquérir la connaissance de Dieu. Il les fait s'absentir sur ce qui trouble leur intelligence et les pousse au découragement. Nous vivons dans un monde de péché et de corruption, environné d'influences propres à tromper et à décourager les disciples du Christ. Le Sauveur a dit, « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Pensez à l'amour et à la puissance de Dieu. Beaucoup ont les yeux constamment fixés sur la méchanceté qui les environne, sur l'apostasie et la lâcheté qui s'étalent un peu partout. Ils en font le sujet de leur conversation jusqu'au jour où leur cœur est rempli de tristesse et de méfiance. Ce qui les préoccupe par-dessus tout, c'est l'ouvre habile du grand séducteur. Ils s'attardent sur les sujets de découragement qu'ils rencontrent et semblent perdre de vue la puissance de leur Père céleste et son indicible amour. C'est tout ce que Satan désire. C'est une grave erreur que de considérer l'ennemi de toute justice comme revêtu d'une si grande puissance et de s'arrêter si peu à contempler l'amour infini de Dieu. Nous devons nous entretenir de la toute-puissance du Christ. Nous sommes tout à fait incapables, il est vrai, de nous arracher nous-mêmes aux griffes de Satan, mais Dieu a pourvu à notre libération. Le Fils du Très-Haut a la puissance de vaincre pour nous et dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne puiserons jamais aucune force spirituelle en contemplant notre faiblesse et nos infidélités, pas plus qu'en nous lamentant à cause de la puissance de Satan. Cette vérité devrait être érigée en principe vivant dans notre cœur et dans notre esprit, à savoir que l'offrande faite en notre faveur est pleinement efficace, et que Dieu peut sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui en remplissant les conditions mentionnées dans sa parole. Tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre notre volonté du côté de celle du Seigneur. Alors, Par le sang expiatoire, nous devenons participants de la nature divine. Par le Christ, nous sommes élevés à la dignité d'enfants de Dieu, nous avons l'assurance qu'il nous aime comme son propre Fils. Nous sommes un, avec Jésus. Nous marchons dans l'empreinte de ses pas. Il est puissant pour dissiper les ténèbres qui obstruent notre sentier, et pour faire briller dans nos cours, au lieu du découragement, le salut par grâce. Notre espérance doit être continuellement fortifiée par l'idée que le Christ est notre justice. Que notre foi repose sur ce fondement, c'est une garantie éternelle. Au lieu de rester dans les ténèbres de Satan, redoutant sa puissance, nous devrions ouvrir nos cours à la lumière du Christ et la laisser se répandre sur le monde, en proclamant que la puissance du Christ est supérieure à celle de Satan, et que son bras puissant est capable de soutenir quiconque place en lui sa confiance. Jésus a dit, « Le Père lui-même vous aime. » Si notre foi est fixée sur Dieu, par Jésus-Christ, elle sera une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénétrera au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Il est vrai que des déceptions surviendront, et qu'il faut nous attendre à des tribulations, mais nous devons remettre toutes choses entre les mains de Dieu, qu'elles soient de peu ou de beaucoup d'importance. Le Seigneur n'est jamais embarrassé devant la multiplicité de nos misères, il n'est jamais écrasé par le poids de nos fardeaux. Sa sollicitude s'étend à chaque foyer, elle environne chaque individu. Il s'intéresse à toutes nos affaires, à tous nos chagrins. Il voit chacune de nos larmes. Il est touché par le sentiment de nos infirmités. Toutes les afflictions et les épreuves qui nous surviennent, il les permet en vue de l'accomplissement de son dessein d'amour à notre égard afin que nous participions à sa sainteté, et que nous goûtions ainsi à la plénitude de la joie que l'on trouve en sa présence. Transforme par la contemplation. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Mais, en des termes plus puissants encore, la Bible expose devant nous l'importance de la connaissance de Dieu. Pierre écrit, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. L'Écriture nous dit ailleurs, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. » Le Seigneur nous a donné cet ordre, « Vous serez saints, car je suis saint », et l'apôtre inspiré déclare que sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. La sainteté est en harmonie avec Dieu. Le péché a oblitéré, presque entièrement effacé en nous l'image de Dieu. L'ouvre de l'Évangile est de restaurer ce qui a été perdu. Nous sommes invités à coopérer dans cette ouvre avec l'agent divin. Comment pouvons-nous retrouver cette harmonie avec Dieu ? Comment lui être rendu semblable, si ce n'est en apprenant à le connaître? C'est précisément cette connaissance que le Christ est venu révéler au monde. Les idées étroites que beaucoup ont eues au sujet du caractère et du ministère du Christ ont rétréci leur expérience religieuse et considérablement entravé leur croissance dans la vie divine. La religion personnelle parmi nous laisse beaucoup à désirer. On se contente beaucoup trop de traditions, de formalisme, trop d'une religion des lèvres. Il nous faut apporter dans notre expérience religieuse quelque chose de plus profond, et de plus solide. Avec toutes les facilités qui sont les nôtres, nos maisons d'édition, nos écoles, nos sanatoriums et bien d'autres avantages, nous devrions être beaucoup plus avancés que nous ne le sommes. Le rôle du chrétien, c'est de représenter le Christ aux yeux du monde. La vie et le caractère doivent être une manifestation vivante de Jésus. Si Dieu nous a confié des lumières, c'est pour que nous en fassions part à d'autres. Mais en comparaison de celles que nous avons reçues et des occasions qui nous ont été offertes d'atteindre les cours, les résultats de nos travaux jusqu'ici, ont été trop minimes. Dieu veut que la vérité qu'il nous a fait connaître produise beaucoup plus de fruits. Mais si nos esprits sont envahis par l'obscurité et par la tristesse et s'attardent sur le mal qui nous entoure, comment pouvons-nous représenter le Christ au monde ? Comment notre témoignage pourrait-il avoir la puissance d'attirer des âmes? Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître Dieu et la puissance de son amour révélé en Christ, mais il faut que cette puissance soit basée sur l'expérience. Nous devons sonder les Écritures avec diligence et prière. Il faut que notre intelligence soit purifiée par le Saint-Esprit et que nos cours soient élevés à Dieu par la foi, par l'espérance et par de continuelles louanges. Grâce au mérite du Christ, grâce à sa justice qui nous est imputée par la foi, nous sommes appelés à atteindre la perfection du caractère chrétien. Notre devoir de chaque jour et de chaque heure est tracé dans ces paroles de l'apôtre, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dès que nous le ferons, notre intelligence deviendra plus lucide, notre foi plus vivante, notre espérance plus ferme. La contemplation de sa pureté et de son amour, la vue du sacrifice qu'il a fait pour nous réconcilier avec Dieu, rempliront tellement nos pensées que nous ne serons plus enclins à parler de nos doutes et de nos découragements. Les manifestations de l'amour, de la miséricorde et de la bonté divine, l'œuvre du Saint-Esprit pour illuminer et régénérer le cours nous place, par la foi, dans une communion si intime avec le Christ que, ayant une conception exacte de son caractère, nous sommes à même de discerner les ruses de Satan. En regardant à Jésus et en nous confiant en ses mérites, nous nous approprions ses bienfaits, lumière, paix et joie par le Saint-Esprit. À la vue de tout ce que le Christ a fait pour nous, nous nous sentirons poussés à nous écrier, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Chers frères et sœurs, c'est par la contemplation que nous serons changés. En demeurant dans l'amour de Dieu et de notre Sauveur, en contemplant la perfection du divin caractère, en nous réclamant, par la foi, de la justice du Christ, nous serons transformés à son image. Rejetons loin de nous les tableaux désagréables, iniquité, corruption, séduction qui sont les manifestations de la puissance infernale. N'en conservons pas le souvenir, n'en parlons pas sans cesse en nous lamentant jusqu'à ce que nos âmes soient envahies par le découragement. Une âme découragée est un corps ténébreux, non seulement elle ne reçoit pas elle-même la lumière, mais elle l'intercepte. Satan se plaît à contempler les effets de ses triomphes sur ceux qui perdent foi et courage. Tableaux qui réjouissent l'âme. Il y a, Dieu soit loué, des tableaux plus gais et plus réjouissants qui nous sont offerts par le Seigneur. Rassemblons les précieuses assurances de son amour, considérons-les comme de riches trésors en sorte que nous ayons toujours les yeux fixés sur elles. Le Fils de Dieu quittant le trône de son Père, et revêtant sa divinité de notre humanité, afin d'arracher l'homme à la puissance de Satan, son triomphe en notre faveur ouvrant le ciel à l'homme et lui révélant le lieu où la divinité manifeste sa gloire, la race déchue retirée de l'abîme de perdition où le péché l'avait plongée et ses rapports avec le Dieu infini rétablis, l'homme revêtu de la justice du Christ et élevé jusqu'au trône de Dieu, après avoir supporté l'épreuve divine par la foi au Rédempteur. Voilà les tableaux que Dieu nous propose pour égayer les chambres de notre âme. Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Par là nous affirmerons l'exactitude du texte, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dans le ciel, Dieu est tout en tous. La sainteté y règne en souveraine. Rien n'y vient troubler l'harmonie avec Dieu. Si nous cherchons à atteindre ce but, l'Esprit du ciel habitera en nous. Mais si nous n'éprouvons aucun plaisir à contempler les choses célestes, si la connaissance de Dieu ne présente aucun intérêt pour nous, si nous ne trouvons aucun charme à contempler le caractère du Christ, si la notion de sainteté nous laisse indifférents, soyons assurés que notre espérance est vaine. La conformité parfaite avec la volonté divine, voilà le but élevé que le chrétien doit se proposer. Il aimera parler de son Dieu, de Jésus, de la demeure de félicité et de pureté qu'il est allé préparer pour ceux qu'il aime. Ceux qui ont contemplé ces sujets, ceux dont l'âme s'est délectée des précieuses assurances de Dieu, ont goûté, nous dit l'apôtre, les puissances du siècle à venir. Nous sommes à la veille du grand conflit, au cours duquel Satan, en vue de défigurer le caractère de Dieu, agira avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si jamais un peuple eut constamment besoin de la lumière d'en haut, c'est bien celui que, dans ces jours difficiles, Dieu a appelé à être le dépositaire de sa loi sainte, et à présenter son caractère devant le monde. Ceux auxquels a été confié un dépôt aussi sacré doivent être vivifiés, élevés, spiritualisés par les vérités auxquelles ils prétendent croire. Jamais l'Église n'a eu un plus pressant besoin des grâces que Paul réclame pour l'Église de Colosse, et jamais Dieu n'a eu plus à court de les lui accorder. Nous ne cessons, dit-il, de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu.